Valois observait son fils aîné, Philippe, ce gaillard à grand nez debout auprès de lui sous le dais, et qui serait, qui allait être demain ou un jour tout proche, ou dans une minute peut-être, le seul, le vrai comte de Valois, le Valois vivant. Il était triste comme il convenait de l'être, le grand Philippe, et pressait la main de sa femme, Jeanne de Bourgogne la boiteuse. Mais soucieux aussi de son attitude à cause de cet avenir devant lui, il semblait dire aux assistants « Voyez, c'est mon père qui meurt ». Dans ses yeux-là aussi, Valois était déjà effacé. Et les autres fils? Charles d'Alençon, qui, lui, évitait de croiser le regard du moribond, se détournant lentement lorsqu'il le rencontrait. Et le petit Louis, qui avait peur, qui paraissait malade de peur parce que c'était la première agonie à laquelle il assistait. Et les filles? Plusieurs d'entre elles étaient présentes. La comtesse de Hainaut, qui faisait un signe de temps à autre au serviteur chargé d'essuyer la bouche, et sa cadette, la comtesse de Blois, et plus loin la comtesse de Beaumont, auprès de son géant époux Robert d'Artois, tous deux faisant groupe avec la reine Isabelle d'Angleterre et le petit duc d'Aquitaine, ce garçonnet à longs cils, sage comme on l'est à l'église, et qui ne garderait de son grand-oncle Charles que ce seul souvenir. Il semblait à Valois que l'on complotait de ce côté-là. On y préparait un avenir également dont il était éliminé. S'il inclinait la tête vers l'autre bord du lit, il rencontrait, droite, compétente, mais déjà veuve, Mao de Châtillon-Saint-Paul, sa troisième épouse. Gaucher de Châtillon, le vieux connétable avec sa tête de tortue et ses 77 ans, était en train de remporter encore une victoire. Il regardait un homme plus jeune de 20 ans s'en aller avant lui. Étienne de Mornay et Jean de Cherchemont, tous deux anciens chanceliers de Charles de Valois, avant d'être devenus tour à tour chanceliers de France, Mils de Noyers, légiste et maître de la Chambre des Comptes, Robert Bertrand, le chevalier au Verlion, nouveau maréchal, le frère Thomas de Bourges, confesseur, Jean de Torpeau, physicien, étaient tous là pour l'aider chacun au titre de sa fonction. Mais qui donc aide un homme à mourir? Hugues de Bouville essuyait une larme. Sur quoi pleurait-il, le gros Bouville, sinon sur sa jeunesse enfuie, sa vieillesse prochaine et sa propre vie écoulée? Certes, un prince qui meurt est plus pauvre homme que le plus pauvre serf de son royaume, car le pauvre serf n'a pas à mourir en public. Sa femme et ses enfants peuvent le leurrer sur l'imminence de son départ. On ne l'entoure pas d'un apparat qui lui signifie sa disparition. On n'exige pas de lui qu'il dresse in extremis constat de sa propre fin. Or, c'était bien cela qu'il réclamait, tous ces hauts personnages assemblés. Un testament. Qu'est-ce d'autre que l'aveu qu'on fait soi-même de son décès? Une pièce destinée à l'avenir des autres. Son notaire particulier attendait, l'encrier fixé au bord de la planche à écrire, le velin et la plume prêts. Allons. Il fallait commencer, ou plutôt achever. Le plus pénible n'était pas tant l'effort d'esprit que l'effort de renoncement. Un testament, cela rebutait comme une prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Charles de Valois avait parlé, et l'on crut qu'il priait.
Écrivez donc, l'ami, dit-il au secrétaire. Vous entendez bien que je dicte. Je, Charles.
Il s'arrêta. Parce que c'était une sensation bien douloureuse, bien effrayante, que d'écouter sa propre voix prononcer son propre nom pour la dernière fois. Le nom, n'est-ce pas le symbole même de l'existence de l'être et de son unité? Valois eut envie vraiment d'en finir là, parce que rien d'autre ne l'intéressait plus. Mais il y avait tous ses regards. Une ultime fois, il fallait agir, et pour les autres, dont il se sentait déjà si profondément séparé.
Je, Charles, fils du roi de France, comte de Valois d'Alençon de Chartres et d'Anjou, fait savoir à tous que je, saint d'esprit, bien que malade de corps.
Si l'élocution était partiellement gênée, si la langue accrochait sur certains mots, parfois les plus simples, la mécanique cérébrale continuait en apparence de fonctionner normalement. Mais cette dictée s'effectuait dans une sorte de dédoublement et comme s'il avait été son propre auditeur. Il lui semblait se tenir au milieu d'un fleuve embrumé. Sa voix s'adressait à la rive dont il se détachait. Il tremblait de ce qui adviendrait lorsqu'il toucherait l'autre berge.
Et demandant à Dieu merci, redoutant qu'il ne m'étonnât d'épouvante quant au jugement de l'âme, j'ordonne ici de moi et de mes biens, ai fait mon testament et ma dernière volonté de la manière ci-après écrite. Premièrement, je remets mon âme à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa miséricordieuse mère et à tous les saints. »
Sur un signe de la comtesse de Hainaut, un serviteur essuya la salive qui coulait par un coin de la bouche. Toutes les conversations particulières s'étaient arrêtées et l'on évitait même les froissements d'étoffe. Les assistants paraissaient stupéfaits quand ce corps immobile, réduit, déformé par la maladie, la pensée eût gardé tant de précision et même de recherche dans la formulation. Gaucher de Châtillon murmura à l'adresse de ses voisins « Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va passer ». Jean de Torpeau, l'un des médecins, eut une moue négative. Pour lui, Monseigneur Charles n'atteindrait pas la nouvelle aurore. Mais Gaucher reprit
« J'en ai vu, je vous dis qu'il reste de la vie dans ce corps-là ».
La comtesse de Hainaut, le doigt sur la bouche, pria le connétable de se taire. Gaucher était sourd et n'appréciait pas la force de son chuchotement. Valois poursuivait sa dictée.
« Je veux la sépulture de mon corps en l'église des frères mineurs de Paris, entre les sépultures de mes deux premières épouses, compagnes.